Alors j'imagine, et vous les enfants aussi, on a tous été, à un moment donné, à un spectacle. J'attends le PowerPoint. Alors un spectacle, je donne la définition simplement du Larousse. C'est ensemble de ce qui se présente au regard. C'est quelque chose qui se présente au regard, à notre attention, et qui est capable d'éveiller un sentiment. Un sentiment. Alors, est-ce que vous avez des exemples de spectacles qui nous émerveillent et qui nous font, les enfants, un spectacle qui vous plaît? Quel type de spectacle vous aimez regarder? Vas-y, Daniel. Oui, un spectacle, oui. Quelque chose qui t'émerveille. Vas-y. Tu sais pas. Vas-y. Le cirque. Ouais, le cirque, tout à fait. Paul? Un feu d'artifice. Ah ouais, effectivement, moi j'ai mis un feu d'artifice. Ouais, c'est un spectacle, c'est quelque chose qui peut nous émerveiller. Le regard, est-ce qu'il y a d'autres idées? Quelque chose qui nous émerveille, qui capte notre attention? Un spectacle de musique, hein, un concert. Mais c'est aussi, par exemple, un lever du soleil ou un coucher du soleil. En montagne ou à la mer. Ça peut être une fleur qui est en train de s'ouvrir. Ouais, grâce. Ouais, des petits oiseaux qui sont en train de sortir de leurs œufs. Bon, moi j'ai plutôt un rouge-gorge qui est en train de picorer les quelques graines sur la mangeoire en hiver. C'est vrai, un avion qui décolle aussi peut capter notre attention. Une moissonneuse dans un champ, un exercice de pompier, hein, une démonstration de militaire, un défilé. Voilà, j'ai mis un défilé. Des singes qui se balancent sur une branche. Enfin, il y a tout un tas d'événements qui peuvent capter notre attention, même un accident ou voilà un véhicule d'intervention, un pompier ou une voiture de police qui passe, ça capte notre attention. Et c'est vrai que derrière ces, on pourrait dire, ces fenêtres, ces spectacles, ben, il y a notre attention qui est captivée, quel que soit notre âge. Ça peut être beau, on peut être captivé parce qu'on est touché dans nos émotions. On l'a vu tout à l'heure avec le bateau, hein, ça nous a tout de suite embarqué dans ce spectacle d'une mer déchaînée. Et ce matin, je vous propose d'aller à la rencontre d'un des plus grands spectacles, si c'est le plus grand spectacle, on pourrait dire, donné dans l'histoire des hommes. C'est celui de la. Alors c'est pas celui, le Puy du Fou. Voilà, j'avais noté, le Puy du Fou a gagné le plus beau spectacle du monde il y a récemment là. Ils ont dû récupérer leur puis leur prix à Hollywood. Voilà, mais il y a un spectacle beaucoup plus grand, c'est celui de la croix de Christ. C'est celui qui a été donné pour l'histoire des hommes. Il y en est aujourd'hui à Pâques. Il a été conçu dans le plan de Dieu. C'est la charnière de toute l'histoire de l'humanité, le point de contact. Aujourd'hui, on parle de 2024 après Jésus-Christ. C'est un moment où les temps sont entrés en collision entre le passé et le présent, entre nos histoires. Chloé partageait son histoire. C'est à cet endroit-là, c'est à ce spectacle de la croix et de la résurrection que nos vies ont été rencontrées. Un moment unique dans l'histoire de l'humanité. C'est un moment où les promesses faites par Dieu aux hommes se sont retrouvées, se sont faites, se sont réalisées dans la personne de Jésus-Christ. Alors c'est un spectacle parce que c'est quelque chose qui a été rendu visible. On a pu le voir de nos yeux. Et cet événement-là ne peut nous laisser indifférents. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, les événements qui ont eu lieu lors de la première Pâque ne peuvent nous laisser indifférents. Alors je voudrais prendre avec vous le texte ce matin. C'est un long texte que Marc nous partage. Sur les récits de cet événement, de ce temps extraordinaire. On est sur la fin de Marc, de l'épître de Marc, de l'évangile de Marc. Marc qui nous retrace l'histoire de Jésus. Et voilà ce qu'il nous dit en Marc 15, à partir du verset 15. Donc on est après l'arrestation de Jésus, après un procès, et il est condamné. Après ce procès, voilà ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour. c'est-à-dire dans le prétoire, où ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» Les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi se moquaient eux aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions ce que nous croyons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là ». Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri, le vit expirer de cette matière, il dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le jeune et de Josse, ainsi que Salomé qui le suivait et le servait lorsqu'ils étaient en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Josse, regardaient où l'on déposait Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre ?» qui est fermé devant l'entrée du tombeau. Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui avait été très grande et qui avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Jusqu'ici, le récit de ce moment le plus charnière de toute l'humanité. Alors c'est un texte court, hein, mais à la fois long, pour ceux qui avaient dû écouter la lecture. Il y a un défi d'essayer de résumer courtement les richesses, parce que quand on travaille ce texte, on découvre des perles extraordinaires. Un des plus gros événements, un des plus grands spectacles, le grand spectacle donné aux hommes de considérer dans leur vie. Alors, vous l'avez remarqué, il y a quantité, quantité de personnes. Hein, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des noms qui sont cités, on parle de Joseph, on parle de Marie, on parle de Jésus, bien évidemment, on parle d'une foule, on parle de témoins, on parle de pharisiens, on parle de Pilate, etc. Vous voyez quantité, quantité de personnages qui sont rassemblés autour de cet événement. Il y a une chose surprenante dans ce texte, alors qu'on parcourt Marc, dans les débuts en tout cas, les disciples sont absents, on les nomme presque pas, ils sont simplement suggérés à la fin de ce récit. Surprenant. Mais pas anodin. Les grands absents. Je vous propose de regarder très courtement cet événement extraordinaire, on pourrait dire ce spectacle, comme au travers des quatre actes qu'on voit dans ce moment-là. Et le premier acte, c'est Jésus, et qui est pour moi qui m'a bouleversé le plus, c'est Jésus qui est rejeté par tous. Et on voit là des versets 15 à 32. C'est une partie très dure, humiliante, je dirais, où on a l'impression que la somme de tout ce qui fait cette nature humaine, qu'on sait, terrible, s'acharne sur Jésus. On l'a pas lu, mais lui le juste, accusé. Lui l'innocent, accusé injustement. Des faux témoins. C'est pas une mise à mort comme une autre. Jésus a subi un procès totalement injuste. Où on a la jalousie, où on a de fausses accusations, on a de la violence, on a une humiliation. On a un orgueil des hommes qui se déverse contre lui. Et dans ce premier acte, notamment, on voit quatre groupes de personnes qui s'acharnent et déversent tout ce qu'il y a de plus laid des cœurs. Le premier groupe, c'est les soldats. Hein. Toute la troupe humilie le Seigneur dans une parodie de couronnement. On moque un faux roi. On fait tout pour le salir, le détruire psychologiquement et physiquement. On l'habille de pourpre, on lui met une couronne d'épines, on le salue, on le frappe, on lui crache dessus. C'est une violence totalement gratuite. Et puis ces mêmes soldats vont l'emmener à la mort. On voit ce déchaînement du cœur humain sur un homme. Et puis là, il y a la mise à mort. Et là, je trouve que Marc, contrairement à tous les spectacles qui sont visuels, il est très économe dans la manière dont Jésus est mis à mort. Trois mots. Seulement, regardez le verset 24, « Ils le crucifièrent. » Point. C'est banal, comme beaucoup d'autres crucifiés à cette époque-là. Oui, mais c'est des mots qui font froid dans le dos, mes amis. C'est pas une crucifixion lambda. C'était la mort la plus infâme, et on le sait, on l'a déjà entendu, maudit celui qui est pendu sur un bois, c'est un supplice qui était réservé aux rébus de la société, aux esclaves. Les Romains, on pouvait pas les crucifier. C'était réservé aux terroristes, aux esclaves, aux tueurs en série, on pourrait dire. C'est une mort totalement scandaleuse. Jésus n'est pas mort dans la tranquillité de l'âge, il n'est pas mort entouré de ses proches, il meurt seul comme un brigand, dans l'indifférence. On partage ses vêtements. C'est vraiment scandaleux ce qui est en train de se passer. Là, c'est la croix, c'est. Et notamment la deuxième réaction du deuxième groupe, là, c'est les passants. Et c'était une habitude quand il y avait des crucifixions. La foule est fascinée par ces spectacles un peu terribles, morbides, d'une exécution publique, versets 29 et 30. Il y a vraiment un mépris public. Un mépris public. Il y a les injures. On se moque de lui. Et en plus, avec cet écriteau, roi des Juifs, il est mis à mort comme un brigand, châtiment ignoble. C'est vraiment un spectacle d'une mise à mort terrible. Un corps nu livré aux moqueries, ridiculisé, ensanglanté, pendu en bois. En fait, la crucifixion était le moyen donné pour, en fait, exterminer, rendre l'homme complètement déshumain. Un corps décharné. Et c'est terrible. C'est des hommes qui font ça. À un autre homme. Bien sûr, le troisième groupe, ça vous a pas échappé non plus, il est moqué par les religieux. Les religieux, les pharisiens, ceux qui étaient en relation, soi-disant, avec Dieu. Il lui lance des certitudes, lui qui en a sauvé plusieurs. Est-ce qu'il ne peut pas se délivrer? Qu'il descende, on a envie de voir pour croire. Je vois ce que je crois. Et ça les conforte un peu dans leur incertitude, hein. Dans les certitudes, pardon, Jésus est un imposteur. Et enfin, il est même insulté, dans ce texte en tout cas, par les brigands. Si on avait vraiment quelqu'un qui aurait pu au moins s'identifier à ce que Jésus était en train de vivre, c'était ceux qui étaient cloués à côté de lui. Ils auraient pu au moins dire « on te comprend, on est aussi là ». Non, même eux, le texte nous dit l'insulte. Ils subissent le même sort, mais le méprisent. Je trouve que, voilà, sans rentrer dans tout le détail, cette œuvre-là, cette mort, on voit tout ce qu'il y a dans nos cœurs qui se déverse de façon, on pourrait dire, gratuite, naturelle, sur Dieu, sur Jésus. Terrible spectacle, en fait, qui se déverse là. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nos actualités en sont remplies, de cet orgueil, de cette rébellion, de ces insultes, de ce mépris du prochain. Ça, c'est le résultat du cœur rebelle contre Dieu. En fait, le péché, ça pue, c'est désagréable. Cette semaine, avec le groupe de prière, on lisait un psaume où on voyait le désastre du péché dans la vie de David. Mais en fait, c'est ça qui est en train de se déverser et de tomber sur Jésus-Christ, celui qui était innocent. Mise à mort totalement scandaleuse et qui, aujourd'hui, nous révolte aussi. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Deuxième acte. Vous voyez, je vais assez vite. Bouleversé par la mort de Jésus. On voit au verset 30 et 39 combien il y a des événements qui bouleversent lors de cette mort. On arrive à midi et il y a quatre événements aussi qui se passent presque surnaturels, cosmiques, qui vont montrer ce bouleversement lorsque Jésus va mourir. Tout va changer. D'abord, on a l'obscurité. Des ténèbres au milieu de l'après-midi. On est à midi pile et les ténèbres, nous dit le texte, sur tout le pays. Imaginez-vous la scène pendant 3 heures, il fait nuit. Le soleil est au zénith et soudain le ciel se voile et il fait froid. Pour ceux qui ont vécu des éclipses, quand le soleil se masque, d'un coup on s'accaille. Alors on aurait beaucoup de choses à dire sur cette obscurité qui est en train d'être montrée par Dieu à ce moment-là de l'histoire. Dans la culture gréco-romaine, l'obscurité c'était signe d'un événement grave. Mais pour les Juifs, cela faisait référence à un jugement de Dieu, à un jour de deuil, à un jour d'amertume. Une obscurité qui arrive le jour de la Pâque juive, où on célébrait la sortie d'Égypte, la mort des premiers-nés, où c'était aussi terrible. Un jour où Dieu est en colère contre le mal, contre l'humanité, une indignation devant les événements qui sont racontés. Voilà, il y a cette mort de Christ. Et il y a les événements, l'obscurité qui montre que Dieu est en train de montrer sa colère contre le mal. Premier, les ténèbres. Deuxième, un cri incroyable. C'est le verset 34. Hein. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Là, c'est la colère de Dieu qui se déverse sur Jésus. Là, c'est Jésus meurt et il prend notre place. Il est en train de prendre la place que vous et moi méritions de prendre. Ça veut dire être exclu de la présence de Dieu. Jésus est là, exclu de l'intimité qu'il avait avec Dieu. Il est séparé de lui. Et là, il prend notre place. Nous, on voulait pas de Dieu, c'est le début, à l'origine. On veut pas de Dieu dans notre vie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Là, voilà. Il est séparé à cause du péché qui est en train d'être déversé, qui est en train d'être pris par lui. Jésus prend notre place, lui l'innocent. Il va mourir banni de la présence, de l'intimité bienfaisante de Dieu son Père. En fait, à la croix, Jésus paye notre place. Et on va le chanter tout à l'heure avec un certain nombre de chants, de ce cri de surprise aussi. Et enfin, il y a la mort elle-même de Jésus qui bouleverse. Verset 37, hein. Une mort de Jésus qui conduit l'officier romain à reconnaître qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer. Jésus pousse un grand cri et expira. Après 6 heures sur la croix, il donne sa vie volontairement. Personne ne lui a ôte. Il est en train de rendre sa vie. Mes amis, quand Jésus meurt à la croix, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas d'imprévu. C'est ce qui a été prévu. Je donne ma vie. Et le quatrième signe, c'est déjà, on a les ténèbres, on a ce cri qui montre cette séparation avec Dieu. On voit cette mort qui la donne de façon volontaire. Et on voit maintenant le voile aussi, on a toujours cette image qui se déchire, La voie maintenant, verset 38, elle est ouverte. Le temple juif était le lieu où Dieu avait promis d'habiter, de manifester qu'il était présent. Il donnait ici, dans ce temple, rendez-vous à son peuple. Mais il y avait une barrière, il y avait ce rideau épais où l'accès était limité. Il y avait parfois un seul homme qui pouvait le franchir une fois l'an, et encore on devait faire des multitudes de sacrifices. Et là, à la mort de Jésus, ce rideau se déchire. La voie est libre. L'accès à Dieu est libre pour tous. Tous ceux qui désirent venir peuvent venir. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de voile. Et c'est la vérité aussi pour nous ce matin. Quand on se sent trop sale, trop loin, quand on manque peut-être de connaissances sur ce que Dieu dit, peu importe, la voie est ouverte. L'accès est libre. Jésus en a ouvert l'accès par sa mort. À quiconque est prêt simplement à placer sa confiance. Qu'est-ce qui me sépare de Dieu? Ben rien du tout. C'est ce que ce texte veut me dire. La seule chose qui me sépare, c'est ma confiance ou non. Mon incrédulité ou mon refus de croire en lui. Alors on est dans ce deuxième acte, et là il y a un verset, on passe souvent par-dessus rapidement, mais le verset 39, c'est un des sommets de notre texte. Je vais le relire. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri, le vit expirer, le vit mourir, de cette manière, il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Ça, c'est le sommet du texte, là. Marc, alors pour ceux qui ont parcours Marc, hein, depuis le début, nous montre que Jésus est le Fils de Dieu. Dès la première page, il y a Dieu qui a apparu, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. On le voit à la transfiguration, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Mais à cet instant, devant la mort de Jésus, qui a été rejeté de façon systématique par chacun, il n'y a aucun être humain, aucun, qui n'ait fait cette déclaration, si ce n'est ici, à l'heure de la mort d'un officier romain. On est dans les arrêts de jeu, dans le dernier témoin, celui qui est le bourreau en chef de cette exécution. C'est pas un proche, c'est pas un disciple. C'est quelqu'un qui probablement ignorait beaucoup de choses sur Jésus. En voyant sa mort, il se dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Pas un juif, un païen. Et ironie, un représentant de Rome. C'est lui qui finit avec cette déclaration tellement forte. Il reconnaît Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Et là, la boucle est bouclée dans Marc. On arrive à la fin de Marc, on reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi lui? Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas les 12? Pour nous rappeler la grâce imméritée. Combien de fois ceux qui marchent avec le Seigneur se disent « Mais pourquoi moi? J'ai compris. » On est là, c'est simplement ça. Pourquoi lui? Mais c'est la grâce, la faveur de Dieu qui a rendu cela possible. On peut pas comprendre Jésus, on peut pas comprendre sa mission, on peut pas comprendre comment on peut être en règle devant Dieu sans comprendre la croix, et cet homme a compris. Mort scandaleuse, mais qui fut le salut de cet homme. Cette mort, ouais, quatre moyens, hein, Jésus subit la colère de Dieu, il prend notre place, il rend volontairement sa vie, et il nous ouvre l'accès à Dieu. Et cet homme, par pure, on pourrait dire grâce, a découvert ce message extraordinaire. Mais ce grand spectacle n'est pas fini. Et on le voit dans le troisième acte, les versets 40 à 47, la mort de Jésus est confirmée. Et je trouve avec beaucoup de simplicité, Marc nous montre trois types de témoins qui vont attester que Jésus ici est vraiment mort. Premièrement, on a des femmes. Regardez le verset 40, on voit des femmes qui regardent de loin. Mais Marc, il les nomme. Tiens, là, on n'est pas dans l'anonymat de la foule. Marc les nomme. C'est Marie de Magdala, c'est Marie la mère de Jacques, le jeune, c'est Salomé, ainsi que beaucoup d'autres femmes qui le suivent depuis la Galilée. Au verset 47, on voit que ces femmes regardent où le corps de Jésus a été déposé, dans quel tombeau. Marc nous dit simplement qu'à la mort de Jésus, des femmes étaient présentes et elles l'ont vu de leurs yeux. C'est comme s'il était en train de dire au lecteur, je peux vous donner leur numéro, leur adresse. Elles sont encore en vie, allez vérifier. Elles ont été témoins de cette mort terrible. Premier témoin des femmes. Deuxième témoin, on a cet homme, hein, Joseph d'Arimathée, un homme important, verset 43, un membre des conseils des Juifs, constate aussi le décès parce qu'il se propose d'enterrer le corps. Il a beaucoup à perdre parce qu'il est haut responsable religieux, mais il est prêt à se dire « je vais dignement enterrer cet homme ». Et il ose aller réclamer le corps à Pilate, c'est le verset 43. Témoin de sa mort, Joseph. Et enfin, troisièmement, qui sont témoins ? Bah, c'est les autorités. On voit Pilate en particulier. Lui, le responsable de l'exécution, s'étonne qu'il soit déjà mort et demande à vérifier. Et l'officier chargé de cette mise à mort confirme que Jésus est bien mort. Alors Joseph va chercher, verset 45. Alors dans notre texte, on a le corps, mais littéralement c'est le cadavre, pour dire vraiment que c'est un corps inerte, mort, où il n'y a plus de vie. Jésus est mort, il a été enseveli, et vraiment enseveli, parce qu'on voit la manière dont Marc nous dit, le corps est enroulé, serré dans un drap de lin, il est déposé au fond d'un caveau taillé dans la roche, comme une cavité, et enfin on ferme tout cela par une grosse pierre, enseveli à triple tour, on pourrait dire, et toujours devant les témoins qui constatent cet endroit précis où Jésus est mis. Cette mort est formellement attestée ici. Ça, c'est le troisième acte. Et enfin, on arrive par ce quatrième acte qui est tout aussi bouleversant, puisque je l'ai appelé aussi bouleversé par la résurrection de Jésus. Les premiers versets de Marc 16. Dernier acte, un jour nouveau. Le soleil se lève, d'ailleurs dans le texte. La lumière se lève, un nouveau jour. On retrouve ces femmes qui viennent avec deux préoccupations. Il faut qu'on l'embaume. On veut embaumer le corps de Jésus. Et avec cette deuxième question, qui va nous rouler la pierre? Et l'ironie du texte, c'est que les deux préoccupations, ni l'une ni l'autre, ne seront nécessaires. Plus de corps, la pierre a été roulée, le tombeau est vide, le cadavre n'est plus là. Et là, au verset 5, soulignant ce caractère exceptionnel, surnaturel, on pourrait dire, il y a un messager, donc c'est le deuxième élément de ce bouleversement, un messager en tenue blanche, qui souhaite les rassurer, dit au verset 6, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié ? Bah, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Vous voyez l'endroit où il avait été déposé. Celui que vous avez vu mort, celui que vous avez vu enroulé, celui que vous avez vu mis au fond de ce caveau, celui que vous avez vu scellé par la pierre, celui qui est... Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où il a été déposé. Il n'est plus ici. Et par-dessus le marché... Verset 7, incroyable cette invitation. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Jésus est de nouveau en marche, Jésus est de nouveau en mission. Il n'est pas juste vivant, il est en mouvement, il organise des rendez-vous, des rencontres. Allez dire à ses disciples, là Jésus a repris l'action, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit, comme il vous l'a dit, comme il vous l'a dit. Tiens, ça fait écho à ce qu'on voyait dans Marc et les disciples. Qui ne voulait pas comprendre que Jésus avait annoncé « j'allais, je vais mourir, je vais ressusciter » comme il vous l'avait dit. Nous avons ici sous les yeux la validation de tout ce que Jésus avait promis. Jésus vit, il est le roi de la vie, il est le roi de la mort. Quel spectacle, quel événement. Jésus est mort, Jésus a été enseveli, Jésus est ressuscité, et c'est ça le message de Marc. Mais ce que je trouve encore le plus surprenant, voilà comment termine la fin de notre passage. Les femmes sont effrayées. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes, bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées. Jésus leur demande de dire, enfin, cet homme leur dit, allez dire la nouvelle! Et là, elles se taisent. Avant, ils n'arrivaient pas à se taire. Quand il y avait des guérisons, ils n'arrivaient pas à se taire. Mais alors là, qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, la résurrection, ils n'arrivent pas à se taire. Ils sont effrayés. Il n'y a pas la joie. Il y a la crainte, la peur, ils sont bouleversés par la résurrection. On dirait que ça se termine un peu en queue de poisson, hein, ce passage de Marc. Alors que Jésus laisse son premier commandement après la résurrection. Allez, témoignez de ces événements-là. Mais c'est vrai, est-ce que ce message est vrai? C'est la question, hein. On peut avoir peur de se dire ce message n'est pas vrai. On a peut-être peur aussi de se taire, on se dit, non mais cet événement-là, il est trop trop ouf, enfin trop exceptionnel pour qu'il puisse être vrai. C'est juste pas possible. Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce que je choisis de suivre Jésus ou pas? Là on est à cette charnière-là. Est-ce que cet événement de la mort et de la résurrection, est-ce que j'y crois ou j'y crois pas? N'ayez pas peur, nous dit l'ange. Elle est claire, on n'a rien à craindre. Jésus vit, il est roi. Et je trouve que le verset 7, il est vraiment aussi, c'est un peu en pendant aussi avec ce que je disais, l'officier romain qui a reconnu Jésus crucifié. Là, il y a la résurrection. Et je trouve que Marc, il nous montre la grâce aussi. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Pierre, celui qui l'a renié. Pierre, celui qui s'est défilé alors que Jésus était arrêté. J'ai fait grâce. Jésus, il a fait grâce. Jésus, il est prêt de retrouver. Il est prêt à recommencer avec Pierre. Il l'attend. Il l'attend. C'est rempli de grâce, cet événement-là. C'est touchant. Et c'est que le commencement. Alors, conclusion. Qu'est-ce qu'on fait de ce spectacle donné aux hommes, comme le plus grand spectacle donné aux hommes? Jésus a dépouillé les dopinations, là je cite Colossiens, hein, et les autorités dans sa victoire, il les a livrées publiquement en spectacle. Donc c'est pas choquant de dire que c'est le plus grand spectacle qui a été donné de voir. Le Fils bien-aimé crucifié. Et à partir de ce moment-là, Dieu veut changer chacun de nos regards. C'est pour ça que je disais un spectacle, ça nous émerveille, ou ça nous détourne, mais voilà, cet événement-là est appelé à changer dans nos vies. C'est un événement où l'amour de Dieu éternel et la colère du Tout-Puissant se rencontrent. C'est là où il y a la réponse à toute la misère des hommes, de l'humanité, à toute la crasse du péché est réglée parce que Jésus a été livré. On peut que voir et comprendre ces événements par l'œuvre du Saint-Esprit qui révèle ces choses, par la conversion. Mes péchés sont retombés sur lui. Mes amis, la croix et la résurrection, ce sont les scènes les plus solennelles de toute l'histoire que l'homme est appelé à regarder. Alors oui, on peut vous inviter à faire la promo de plein de spectacles, de plein de trucs. Mais ce que je voudrais nous encourager dans ce temps de Pâques, à contempler cet événement unique, central, pour chacun des êtres.